bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
À tout à l'heure.
Merci Léo.
Merci de nous rejoindre avec Léa Cadeau-Boudadi,
Daniel
Morin,
bonjour Léa,
Guillermo, Tanguy, Bassureau sera là tout à l'heure, et notre invité, Olivia Colté.
Oh, bravo.
Dans un nouveau film signé Christophe Le Mann. Merci en tout cas d'être. Mais c'est le plus dur est fait. Maintenant le reste ça va.
Ah, ça va.
Ouais, c'est ça redescend après.
De toute façon, on ne dit plus rien maintenant. Il fait les questions et les réponses.
Olivier, c'est mal barré cette histoire. Dans un film aux côtés de Lolita Chama et Philippe Rebaud, avec une famille totalement déjantée. Alors on va pas pouvoir atteindre le niveau des rapports qu'il y a dans la fratrie et autour de cette famille qui se réunit suite à un deuil, puisque c'est maman qui dès le début du film meurt et qui est le déclencheur de tout finalement, et des retrouvailles et de la vente de ce qu'il y a à la maison, et voire la vente de la maison. Olivia.
Tout à fait.
Merci Olivia.
Oui, c'est un mois après le décès, le fils qui n'est pas revenu à la maison depuis très très longtemps, que vous incarnez
Grégory Motel. 10 ans à peu près.
Voilà, revient et donc retrouve la fratrie, retrouve les souvenirs d'enfance et les problématiques de la fratrie aussi.
Il doit ranger sa chambre.
Oui, ah ouais, mais ça, c'est
extraordinaire parce que c'est une expression.
Rouge.
J'ai plein d'amis, 30 amis,
qui
disent,
beaucoup,
au lieu de dire « je vais aller voir un psy », ils disent « je vais ranger ma chambre ».
Ouais. Ou quand
souvent, et quand je dis 30 amis, c'est des gens qui ne se connaissent pas entre eux. Ouais. Ils n'ont pas inventé cette petite formule entre eux.
Ou quand tu te sépares, tu ranges ta chambre.
Je vais ranger ma chambre.
Et donc du coup, c'est très formidable.
Mais par contre, Nagui, c'était incroyable parce que vous dites que cette famille est déjantée. Mais bah, bon, parce que les autres familles sont normales. C'est incroyable. Alors ça, je savais pas. Je pensais que tout le monde était fou.
Il y a des degrés.
Les familles étaient folles.
Alors déjà au niveau fringue, Philippe Rebaud en parle ou pas? Parce que il a un peu le même t-shirt tout le long du film, si vous voulez.
Mais surtout,
il fait des travaux.
Pour qui aime
Johnny Clegg, c'est un bel hommage.
Exactement. Jumbo.
Alors, je vais poser des questions et c'est vous qui devez trouver des réponses.
C'est une interro, quoi.
Exactement. Olivia et Grégory ne disent rien. Pourquoi Olivia Cotte aime-t-elle faire du shopping avec son papa?
Il achète tout.
Non.
Parce qu'il se moque de toutes les fringues. Elle lui fait essayer des vêtements de femme.
Non, il a un bon oeil.
Je pensais que ça resterait secret.
Tu me l'as dit, Olivia.
Je suis une personne publique.
Mais là, elle est montée dans les tours assez vite.
Ils font la même pointure.
Non.
Même taille d'or.
Lui, on fait la même pointure.
Non, arrête, non.
Il aime bien regarder. Il aime bien essayer les chaussures.
C'est vrai qu'il aime bien regarder.
Il aime bien regarder, mais c'est pas ça le problème.
Mais il bossait chez Michou, c'est quoi
la
question?
Quel est le plaisir? Quel est le plaisir d'Olivia d'aller faire les courses avec son papa?
Elle aime bien essayer devant lui.
Non.
Il aime bien essayer devant elle.
C'est extrêmement gênant tout ça.
C'est très gênant.
Je vois pas où on veut en venir, mais du coup, je suis vraiment comme dans
un film. Elle aime bien le gâter. Elle aime bien lui trouver des nouvelles tenues.
Non.
Vous avez la réponse?
Oui, j'ai la réponse. Enfin, une réponse que vous avez donnée, maintenant je ne sais pas si c'est la vraie réponse, c'était une vanne qui d'un coup devient un moment de solitude à la radio.
Non, allez-y.
Personne n'a trouvé.
Non.
Vous avez dit qu'il fait un one-man show.
Ah oui.
Et que vous êtes morte de rire
quand il fait des courses avec papa. Dit ça, comment ça se retrouve à la radio? Oui, bien sûr, depuis que j'ai 5 ans, il me fait des cours de danse, des sketchs, il fait des petits numéros de danse aux gens, il fait beaucoup de blagues. Ouais. Depuis que je suis toute petite.
Ah d'accord. Ça vient de là,
non. Ouais, vraiment. Limite, il peut faire une roue dans un magasin pour faire rire quelqu'un, quoi. Non, mais vraiment. Ouais,
c'est incroyable.
Par cet homme. Ouais.
D'accord, très bien.
Il est danseur classique, il a la connerie, il pense qu'il faut rire dans la vie, voilà. Il a raison.
Quelle actrice Grégory Montel a-t-il embrassé sur un tournage, sachant qu'il était totalement sous le charme
Monica de Bellucci.
Exactement.
Ah, ouais.
Ah, oui, ah, c'était pas compliqué. Hein.
Non.
Non, c'est parce que c'est la saison. Non, c'est cette saison en plus.
Ah oui,
bah, c'est ça.
10%.
Ouais. C'est là.
C'est dur le boulot. Hein.
Ouais. Bah, des fois, il faut s'y mettre.
Il faut y aller,
mettre le bleu de chauffe. Puis il faut embrasser Monica Bellucci.
Il y a eu beaucoup de prises.
Quelques-unes. Je me suis parfois un petit peu loupé. Excusez-moi, je crois que j'ai
fait une fausse pelle.
Exactement.
Mais c'est vrai qu'elle a insisté beaucoup de son côté aussi.
Mais je sais pas.
Grégory, est-ce qu'on peut se dire la vérité?
Non.
Ah, moi, je suis pas venu à la radio pour dire la vérité.
on dit que ce sont des baisers de cinéma, on dit que c'est pas des vrais baisers, on dit que, entre guillemets, on met pas la langue, c'est des baisers de cinéma, des baisers de théâtre, mais...
C'est la curiosité de Maggie, ça.
Est-ce qu'il y a des caries? C'est pas ça. Alors, je veux savoir s'il y avait des petits fils de bave.
Pas du tout.
Mais si on met la langue, on met combien?
Pas du tout. Non. Ce sont des baisers de cinéma. Il n'y a pas la langue, mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir cette espèce de sensibilité, ne serait-ce que les deux touchés d'élèves, ça doit faire quelque chose quand même. On ne peut pas dire c'est juste un baiser de cinéma.
Alors je demande d'abord à ma conseillère.
Déjà, est-ce qu'on pourrait embrasser Madame Montel peut-être
Mais si vous voulez, mais c'est évidemment que c'est sensible.
Ça fait quelque chose.
Évidemment qu'on a les mêmes moites.
Ça fout les couples, hein, moi je vous le dis.
Évidemment. Ouais. Je vais vous dire un truc très très drôle qui s'est passé. Le lendemain de la scène avec Monica Bellucci, ma femme m'a mis un message sur Facebook où il y a mon fils qui est le film et mon fils fait maman, elle est plus belle que Bellucci. La jalousie.
Très bien.
Très particulier. Parfois, on se dit entre nous que notre métier est absurde. Ouais. On va le matin sur un endroit et tout d'un coup, on embrasse un homme avec fougue et amour qu'on ne connaît pas, qu'on connaît depuis deux jours. C'est absurde.
Et qui a peut-être une mauvaise haleine. Et...
Oui, mais ça, voilà.
Ça arrive aussi, j'imagine.
Ou sans doute, je sais pas. Non, mais c'est vrai que c'est un peu absurde. Cette question est intéressante. On n'a pas le temps d'en parler pendant deux heures, mais c'est intéressant.
Un jour, quelqu'un a dit à Olivia Cotte qu'elle ne ferait jamais rêver les hommes. Pourquoi?
Parce qu'elle était trop drôle.
Parce qu'il l'a vu avec son père.
Alors, je vais accepter ça. Non, c'était au niveau de la drôle. Parce que vous faisiez trop de grimaces.
Oui, et c'est marrant parce que c'est une femme qui m'a dit ça. Je peux même dire son nom.
C'est une actrice.
Non, je peux pas dire son nom.
Mais si.
Mais c'est une femme qui m'a dit ça vraiment au premier degré.
C'est donc quelqu'un de connu.
Oui. D'accord. Et qui m'a vraiment dit, c'est pas bien ce que vous. Mais c'était il y a longtemps, ça. C'était au début de Vous les femmes, donc il y a 10 ans à peu près. 10, 11 ans.
Elle m'a vraiment dit cette phrase. Comment continuer de faire rêver.
Elle dit, si vous continuez à faire ce truc-là, vous les femmes, vous ne ferez jamais rêver les hommes. Oh, elle m'a estomaqué cette phrase.
Avec Judith Siboney, vous êtes allée, mais au-delà de toutes les limites possibles et imaginables.
Je m'en rends pas compte.
C'était tellement drôle. C'est-à-dire, vous vous serviez de vos corps pour faire rire. C'est-à-dire que la nudité n'était pas
Ça peut être un instrument ridicule et comique comme un corps d'homme, en fait. Ouais. Apparemment non. Apparemment, le corps de la femme est juste un objet érotique et tout ça.
Dans l'école.
Mon père m'a éduqué comme un machin, comme un individu qui, s'il est sur Terre et que la vie est si courte, au moins rigolons.
C'est génial.
Donc utilisons tous nos narines, nos cheveux, nos mots, notre voix pour créer du comique. Et c'est sûr qu'en effet, ça paraît antinomique. Pour une femme, si une femme se ridiculise ou devient un peu drôle parce que tout d'un coup un mouvement de corps devient disgracieux et drôle, ok, c'est fini, on peut plus faire rêver les hommes. Mais c'est bon, maintenant je vais devenir homosexuel.
Non mais
c'est vrai, je l'annonce aujourd'hui à la radio.
À 11h13.
Très
bien. L'une des raisons pour lesquelles Grégory Montel a quitté Aix-en-Provence pour grimper à la capitale. Pourquoi a-t-il quitté Aix?
L'odeur?
Non.
Ça sent délicieusement bon, Aix-en-Provence.
Aix est une très belle ville.
Bah ouais, c'est magnifique.
Ça n'empêche pas.
Ouais. Pourquoi
Pourquoi quitter Aix-en-Provence pour monter à la capitale?
Pour avoir du travail.
Le fric? Non.
Pour se séparer de quelqu'un?
Aïe. Monica Bellucci.
Non, c'est
terrible parce que ça fait remonter des. C'est dommage que le monsieur ne soit pas encore là pour qu'on puisse discuter.
C'est plus violent que ça, c'est pour pas croiser une ex.
Ouais. C'est tout petit Aix-en-Provence. Hein.
C'est vrai.
C'est très circulaire comme ça.
Oui, c'est ça.
Et donc.
La ville s'appelait Aix-en-Provence, c'est pas possible.
Faut la fier.
Donc tu.
Il accepte pas la vague.
Tu passes quoi. Non, mais je.
Mais ça n'a pas duré longtemps, l'homosexualité, Olivier.
Non, il fallait aller loin.
C'est clair, la meuf, il ne peut pas s'empêcher.
Ah, mais elle est très, très câlin.
Olivia. C'est pas que tu fais pareil, mes hommes, tu leur fais peur. C'est tout, tu les effraies.
Olivia a connu Judith Siboney, sa partenaire de Vous les femmes, en classe de 4e. Qu'est-ce qu'elles aimaient faire ensemble?
Tricher?
Non.
Du lâchin?
Non.
La gym.
Parler, bavarder,
se rouler des pelles.
Fumer des cigarettes?
Non.
Qu'est-ce qu'on adore faire? Des sortes de l'une chez l'autre.
Jouer au foot.
Quatrième, tu deviens copine.
Cours de violon.
Ah, la deuxième langue, non?
Et tu te dis...
Partir en voyage ensemble.
On va continuer de faire des trucs ensemble.
Fuguer.
Non.
Faire un enfant.
Habiter ensemble.
Non.
Se marier.
Mais non, quatrième.
Partir en vacances ensemble.
Bah, on peut projeter des trucs.
Non.
Qu'est-ce qu'on peut faire en quatrième?
Elles se sont bien entendues parce qu'elles elles
imitaient.
Les profs.
Voilà.
Un point pour Maggie. Elles aimaient imiter, mais alors pas que les personnages, mais les animaux aussi.
Ah, oui, c'est vrai.
Vous amusez.
Mais comment vous savez tout ça?
Toutes les adolescentes font ça peut-être, elles imitent des animaux.
C'est non, mais c'est vrai que par exemple, on a flirté très tard, et parce qu'on passait notre temps à jouer, en fait. C'est vrai qu'on a été enfantine, j'allais dire débile, mais non. On a été enfantine très longtemps, jusqu'à 15-16 ans, sans déconner. On était attardés sur tout ce qui est flirt et tout ça, et on passait notre vie à imiter des choses, des situations, des GI américains. Je me rappelle, on rampait dans les gymnases comme ça, pendant des heures et des heures, où toutes les filles à la cantine se pomponnaient. Je trouvais ça marrant. Avec le recul, je me dis, putain, on était quand même marrantes, quoi. On passait vraiment nos vies à faire des trucs physiques, à imiter...
Encore plus fort en revoyant plein de sketchs de vous, les femmes. Il y a eu combien de saisons de vous, les femmes?
5.
C'était tellement bien.
Oh, merci, mais il faudrait que je vienne ici plus souvent. Je veux pas vous me remonter le moral. Je veux pas me dire que c'était bien, vous les femmes. Oui, c'est vrai que c'était rigolo.
Non, c'était bien, c'était intelligent.
Ah, merci,
mais c'est drôle, c'est intelligent. Et puis surtout, extrêmement bien joué, toutes les deux. Vous êtes vraiment des comédiennes extrêmement brillantes. Mais
c'est bon de venir ici. Hein.
Ah ouais, putain, ça me fait du bien. Franchement, c'est à point nommé.
Fan de football, Grégory.
Ah ouais, moi.
Fan de foot. Par son métier d'acteur, il a eu la chance de rencontrer un footballeur.
Cristiano Ronaldo.
Zlatan.
Non.
Zidane.
Platini?
Non.
Pelé, enfin, c'est un quoi, un vieux?
Pelé est mort.
Ah, attends, français ou pas français?
Pelé n'est pas mort.
Tu l'as déjà entendu parler, là, récemment?
Français ou pas français, Nagui?
Français.
Deschamps?
Français, je vais vous donner des champions du monde.
Bah, Deschamps,
c'est Mbappé.
Thuram.
Bogossian.
Il a pu rencontrer. Alors, je vais vraiment vous donner. Ça va être plus rapide. Grâce à son métier d'acteur.
Ah, le bœuf?
Le bœuf?
Non.
Cantona.
Moi j'ai dit acteur. Non.
Il est pas champion du monde.
C'est la vieille promo. C'est la jeune.
Et Cantona n'est pas champion du monde, il a raison.
Ah oui, c'est vrai.
C'est quelle promotion de champion
98.
Du monde?
98.
Ah. Acteur, mais c'est devenu acteur.
De Sailly,
non.
Thierry Henry.
Mais il vit avec une actrice.
Ah, Elisa Razou.
Exactement.
Oui, c'est vrai.
J'ai l'impression que l'iPad ne marche pas, Nagui.
C'est vrai.
Très bien.
J'ai rencontré Thuram il y a pas longtemps aussi.
Ah voilà, j'aurais pu avoir un point.
Et quand, alors vous êtes.
Oh, je peux vous raconter encore plein de trucs intéressants comme ça.
Est-ce que vous êtes. Non, mais vous êtes comme un enfant encore devant ces champions du monde, c'est-à-dire vous demandez un selfie, un autographe, vous leur parlez, vous leur posez des questions?
Ouais. Ouais, je préfère encore plus l'Olympique de Marseille à l'équipe de France.
Donc tu n'aimes pas le foot alors?
Si, j'aime énormément le foot.
Fais gaffe.
Non, mais je suis parti d'Aix, je vis à Paris, je m'adapte. Hein, mais c'était quand même un beau moment. 98,
en supporter de Marseille, j'imagine. Hier, vous aviez l'avant-première du film, donc vous n'avez pas vu Paris jouer contre Manchester. Mais quand il y a une chose que j'ai trouvé formidable à la fin du match, c'est qu'il y a Mbappé qui en interview dit j'espère que toute la France était avec Paris ce soir pour combattre Manchester et nous serons avec Lyon la semaine prochaine quand ils vont jouer. C'est qu'il y a un moment, non mais il faut arrêter.
Moi j'aime bien, je trouve ça joli. Il y avait un bel article d'un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle Grégory Schneider qui écrit pour SoFoot etc. Et qui disait, il écrit super bien cet homme, et qui dit mais c'est vrai quoi, c'est les chapelles, il n'y a aucune raison pour que il y ait une espèce
dans le championnat. Non, mais quand t'es en Coupe d'Europe,
c'est bien. On défend chacun nos trucs. Ah ouais. Moi, j'ai.
Mais quel intérêt de pas être content que Marseille gagne en 93 la Coupe aux grandes oreilles parce que on est supporter de Paris ou de Lyon, franchement.
Parce que c'est pas notre équipe.
Ah ouais. Mais c'est une équipe française.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mon équipe, c'est Marseille. Je suis
d'accord.
Et si Paris gagne, je n'éprouve pas de joie particulière parce que je ne connais pas cette équipe, parce que je la suis pas, mais c'est pas grave. Hein,
c'est grave.
Est-ce que alors pour aller plus loin, Grégory, est-ce que vous êtes content si Paris perd en Ligue des Champions?
No comment.
La réponse est oui.
Mais c'est ça les vrais supporters. Moi je trouve ça c'est beau.
Ok. Vous allez au Vélodrome, vous allez dans des virages.
Je vais tout le temps au Vélodrome, je suis abonné au virage pendant.
Même quand il n'y a pas match.
Pendant plus de 10 ans. Non, mais c'est.
Ça a l'air de vous dépasser, Olivia, quand cette passion.
J'en ai tellement rien à foutre. Mais c'est fou, je suis en train de me dire pourquoi j'en ai autant rien à fiche du foot. En même temps, c'est un truc tellement important dans la vie des gens.
Vous n'avez même pas regardé la Coupe du Monde?
Mais non, vraiment. Si, en 98.
Pas là, en 2018.
Si, quelques matchs. Si, j'en ai regardé quelques-uns.
D'accord, mais parce que la bande de potes disait il faut qu'on regarde, il y a l'équipe de France qui joue.
Oui, mais je sociologiquement, tout ça, je trouve ça fascinant, mais ça ne m'intéresse pas tellement. En fait, même pas du tout.
Parlons de moi, maman, ma mère et moi. Voilà. Tout est dans le titre ou presque. Benoît, donc, que vous interprétez, a loupé l'enterrement de sa maman.
Ça arrive. Hein.
Alors, c'était quoi, l'Eurostar?
C'était quoi le problème? C'était l'Eurostar, il restait coincé.
C'est ça, coincé dans,
c'est ce
dans
qu'il
l'Eurostar.
Dit, hein.
Il dit, mais on sait qu'il ment.
Et donc, il se retrouve dans cette maison familiale où il y a ses deux sœurs, jouées par Olivia Cotte, Lolita Chama et son grand frère Philippe Robaud. Et là, il y a le bazar d'abord le bazar de la maison en elle-même, mais de sa propre chambre.
Qui est resté en état depuis qu'il en est parti.
Il retrouve les mêmes posters, les mêmes journaux, les tout pareil.
Ben là, je pense que la maman espérait tant qu'il vienne ranger cette chambre pour le voir, pour l'embrasser. Je pense qu'il y avait une relation extrêmement forte ensemble et pourtant ils ne se sont pas vus visiblement pendant pas mal de temps.
8, 9 ans. C'est comme un enfant décédé, c'est terrible à dire, mais il y a ce côté, genre on laisse intact dans l'espoir que la vie reprenne.
Et ça le fait flipper d'ailleurs, ce personnage. Ouais. Il se dit, mais ma chambre, c'est pas un musée, enfin, on a le droit.
Et ça le trouble tellement qu'il a des visions. Lui, il reste en contact avec sa mère, mais au sens propre du terme. C'est-à-dire, quand on dit hanté, il est vraiment hanté, il est tourmenté.
Spectral. Ouais. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, cette maman, enfin, c'est cette maman qui est à l'intérieur de lui-même désormais, puisque cette maman, elle est morte, donc elle est en lui. À l'intérieur de lui, elle lui dit elle lui fait comprendre qu'il y a un secret qu'il faut qu'il délivre à cette famille. Voilà.
Et dans la famille,
il est chargé de ça.
Et ce qui est drôle, c'est qu'il trouve ce petit message sur une carte postale qui est planqué dans une de ses revues porno de l'époque.
Exactement. Voilà. Bah oui, justement, voilà, c'est ça. Il retrouve toute sa vie d'adolescent avec ses livres de cul, avec ses fantasmes.
C'est New Look ou c'est Playboy.
Ouais, voilà. Ce qui c'est. Bon, ça va, il y a plus violent, mais
non, mais c'est daté, je veux dire.
Ouais, c'est hyper daté. C'est très daté. Il y a des posters de FFF partout sur le mur.
Marie-Jeanne, vous souhaite une bonne année 92.
On sentait que c'était
lunettes sur c'était un gamin. Les de Freddie Mercury.
Elle était belle cette chambre. C'est génial.
Les rollers bleu blanc rouge avec le frein à l'avant.
Exactement.
C'est ça, c'est un truc génial.
Quoi donc?
Quand tu rentres dans ta chambre, quand t'es acteur et que le chef déco t'a préparé une chambre sublime et que tu rentres, tu fais waouh, ça c'est ma chambre de quand j'étais ado.
Tu regardes,
et là ça te remplit de plein de trucs et puis bah t'es prêt à jouer.
Pourtant vous n'avez que 40 ans et comment être nostalgique d'une chambre d'ado en étant si jeune?
42.
Mais ça fait quand même.
Non, moi je suis. Okay. C'est factuel. Ah, okay, hein. Je suis factuel.
Non, mais là je suis tellement déçu avec mon histoire de football
mais
tout
non,
à l'heure.
Non, je plaisante.
Ça fait quand même 24 ans l'adolescence, quoi.
Ouais, mais je sais pas. Je pensais que c'était un truc qui fonctionnait quand
de
on était beaucoup
personne
plus...
comme
non,
vous.
Beaucoup plus vieux comme moi. Non, c'est vrai.
C'est bizarre. On est nostalgique déjà à 44 ans de l'enfance, l'adolescence, non?
Non, 42.
Arrête. Les femmes. Les femmes dans cette famille, Lolita et vous. Deux sœurs qui n'ont pas le même rapport au poids des responsabilités, j'allais dire. Il y a la petite dernière qui est jouée par Lolita Chama et vous qui prenez tout sur vos épaules, qui est un peu la tôlière. Quoi.
Oui, et hier j'étais assez émue parce que j'ai à l'avant-première, il y avait la grande sœur du réalisateur, Christophe Lemann, qui est venue me voir et qui m'a dit « Alors on ne se ressemble pas du tout physiquement, mais vraiment, c'est vraiment le personnage ». Le personnage que j'interprète, c'est vraiment la sœur. Et elle me regardait, elle avait vraiment les yeux humides en me disant « Du coup, tu comprends ce que je ressens. » Parce que c'est vrai que c'est une femme... Moi, j'ai pas de frères et sœurs, donc en plus, c'est quelque chose que je ne connais pas, mais que j'observe autour de moi. Il y a en effet parfois un frère ou une sœur qui prend tout sur ses épaules. Et du coup, l'égoïsme des uns et des autres peut se répandre gentiment parce que t'as une personne qui prend tout en charge. Alors, par exemple, pour un deuil, pour quelqu'un qui meurt, c'est elle qui s'occupe de tout, de la concession des croque-morts,
c'est
de tout.
Ça, ouais.
C'est elle qui a tout organisé. C'est elle qui met en branle la vente.
Il faut vite finir cette phrase, oui.
Ouais, c'est chiant. Enfin, bon, bref, elle s'occupe de tout. Elle s'occupe de tout. Et peu de sa vie privée et tout ça. Et donc, c'est vrai que ses frères sont quand même deux gars très égoïstes. Et la petite complètement alcoolo, donc c'est vrai qu'elle en a gros sur la patate, quoi. C'est
non,
un peu
ouais,
compliqué.
C'est ça. Et puis, bah, enfin, ils sont égoïstes, mais en même temps.
La famille de fou.
Quand quelqu'un prend aussi les responsabilités et s'occupe, c'est facile de dire, bah, tu sais quoi, c'est elle qui va s'en occuper.
Oui, voilà.
On se repose. On se repose sur elle. Et en fait, on sent aussi qu'il y a un manque d'amour, enfin, qu'il y a un manque de reconnaissance pour elle.
Oui, oui, c'est ce que j'ai vu dans les yeux de la sœur de Christophe hier. J'ai vu un moment parce que donc mon personnage, enfin cette femme dit j'ai tout fait et ma mère, j'ai réalisé qu'elle m'a jamais prise sur mes genoux. Après c'est cette génération là où il y avait peu de
je t'aime,
peu de câlins, peu de on prend les enfants sur les genoux, on leur fait des guilis. Bon, c'était pas trop ça. Et tu sens que cette femme a vécu ça, un vide de tendresse et de câlins. Qu'il a blindé. Elle disait, Benoît, c'était le petit chouchou.
Alors, on en parlera tout à l'heure avec Pascal Neveu, qui est psychanalyste, psychothérapeute et directeur de l'Institut de psychanalyse active. On va reparler du deuil, voire le deuil impossible, parce que c'est un peu ce qui se passe. On a l'impression que le poids, la présence, et pas uniquement la présence cinématographique, j'allais dire le côté il y a un fantôme qui se balade et la maman est encore là, mais on sent que ils ont du mal à nettoyer la maison, ils ont du mal à la vendre, ils ont du mal à la faire visiter,
à se partager, ils ont du mal à se partager. Les déchirés, en fait. Voilà, ça, c'est ces quatre personnes déchirées, mais qui sont déchirées différemment. Et
pour différentes raisons, chacun n'a pas le même rapport soit à l'objet, soit à l'endroit.
Mais c'est vrai que c'est marrant qui est ce monsieur Pascal Neveu là qui va venir nous parler, qui est donc psychiatre, c'est ça ?
Ouais, psychanalyste.
Psychanalyste spécialisé du deuil. Mais c'est extraordinaire, tu dis. Bah oui, en fait, c'est ce que je disais. En fait, depuis tout petit à l'école, on nous apprend à bien se tenir à table, à bien manger, à tout ça. On devrait nous apprendre à supporter le chagrin.
On ne sait pas gérer le deuil.
Bah ouais. Alors peut-être dans d'autres sociétés, c'est plus.
Il y a une question de culture, c'est vrai.
Mais
que...
nous, en tout cas, dans notre société,
mais
vas-y,
c'est la grande
roule,
phrase
quoi.
De savoir au moment d'un deuil, on pleure, mais on pleure.
Mais on
parce qu'on pleure sur on pleure sur soi parce qu'on n'aura plus la personne où on n'a pas su dire suffisamment tôt « je t'aime » avant qu'il ou elle nous parte, nous quitte. Mais on n'imagine pas, il faut aussi faire l'effort de se dire « cette personne soit été malade, soit maintenant elle ne va plus souffrir, elle sera peut-être mieux ». Chacun n'a pas la même vision et perception du deuil en fonction de la situation.
Ouais, et puis dans le film, il y a aussi question du tabou et du secret qui n'est pas réparti de la même manière dans la fratrie. Parce que tout le monde soit au secret, c'est une chose, mais qu'une partie des frères et sœurs soit au courant et les autres pas, ça crée aussi un déséquilibre. Et c'est le moment de régler les affaires comme on règle la vente d'une maison. C'est aussi raconter l'histoire parentale qui n'est pas toujours celle dont on a rêvé, en fait.
En parlant de secret, pardon, on vous coupe. J'ai très très envie de dévoiler un secret d'ailleurs du tournage.
Je t'en prie.
Bah, Philippe Rebaud, sur le tournage, porte un pantalon à toile de jupe.
C'était une jupe. Non,
je me suis trompé. Porte un pantalon en toile de jute et dans la vie, il ne met pas de slip.
Oui, c'est vrai, chelou.
Donc, est-ce que tu imagines le truc ?
Ça, c'est un traumatisme.
Je ne veux pas l'imaginer. Ça gratte.
C'est vrai.
Toute la journée, il se gratte.
Toute la journée, ça allait mal. C'est vrai.
Et je lui dis, mais t'as qu'à mettre un slip. Non, je ne porte pas de slip, moi.
J'ai des principes, monsieur.
Pardon, je suis vraiment désolé, mais s'il fallait que ça sorte.
C'était bon moment, en tout cas, pour intervenir.
C'est bien. On l'embrasse. Au moment où Leïla parle, se dire, avec ou sans slip.
Vous avez dit le secret immédiatement.
Avec ou sans slip, c'est important. C'est
pardon, je suis vraiment désolé.
Olivia... C'est un bon nom d'émission en même temps, avec ou sans slip.
Propose à Frédéric Gomez.
C'est un bon titre de tout.
Olivia Cotte, Lolita Chama, Grégory Montel et Philippe Rebaud, entre autres, à l'affiche de ce film. J'ai pas le nom de la maman, mais je vais le retrouver.
Valadier.
Dominique Valadier, grande comédienne, grande de théâtre aussi. Ouais. Prof
absolument,
de théâtre.
Tout ça. Alors, je vais rajouter Alex Moreux et Philippe Naon. Tout ça dans le film dirigé par Christophe Lemann. Et ça s'appelle... Moi, maman et
ma mère et moi.
Ma mère et moi, voilà, il ne faut pas se tromper dans
l'ordre. Ça fait beaucoup, Nagui.
C'est au cinéma à partir d'aujourd'hui. On va y arriver. Ça va être un succès, Tom Villa.
Oui, parce que l'histoire est hyper efficace. C'est une maman qui meurt, un de ses fils loupe l'enterrement. Et au moment de vendre la maison, toute la famille se retrouve et s'engueule. Bref, une histoire française. Et la critique est unanime. Hein. Au hasard, par exemple, Rock Éclair Magazine, une ode à la mort pour ne pas regretter la vie. Quatre planches hebdo, touchant drôle, on est resté cloué. Ou pour finir, Passion Crématorium, qu'on appelle aussi Passion Créma. 4/5, bravo. Je cite, après ce film, vous ne verrez plus la mort du même. C'est vrai, quand on voit ça, on se dit que ça va être le succès, ça va être une formalité. Après, c'est vrai que c'est toujours compliqué, les films sur la mort, sur le souvenir des gens qui sont plus là. Et du coup, il y a un truc qui est hyper important, un peu tabou, mais on va en parler, Nagui. C'est comment bien préparer sa mort. Parce que dans le film, dans le film, on le voit, c'est le bordel pour toute la, est-ce que la maison, on la vend pas? Si t'es proprio et que tu meurs, laissez un petit mot, une consigne, je sais pas, sur le petit meuble de l'entrée, par exemple, ça serait très bien. Parce que derrière, ça crée des embrouilles inutiles. Et après, on sort des phrases à la con. Tu sais, vous les connaissez, ces phrases à la con de... Maman aurait voulu qu'on fasse ceci, tu sais, ou papa aurait refusé qu'on agisse comme ça. En attendant, ils sont plus là et c'est toi qui te démerdes. Je suis exactement en train de vivre le film, c'est pour ça. Mon grand-père est parti là en septembre-octobre. Enfin, il est parti, on sait où il est, hein. Mais et mon père est en train de vendre sa maison. Et du coup, c'est très dur de vendre une maison de personnes âgées. Tu vois, et on peut pas jeter la pierre à des gens d'avoir du mal à se projeter. Tu vois, dans une maison qui est décorée années 60, 70, rien que dans la salle de bain, tu sais, bon, le carrelage au sol, ok, mais au mur, c'est du lambris. C'est con, tu fais un quart de tour, t'inverses les deux, t'as du parquet au sol et du carrelage au mur, c'est top. Mais là, non, c'est raté. Alors, on dit que la mode revient et c'est un cycle. Il y a un gros retour du 70, puis d'un pas de peau, parce que le 70 de mon grand-père, c'est pile poil celui qui est pas revenu, tu vois. Mais là, mon père, il est en train de tout trier, c'est l'enfer pour lui. Et encore, c'est que des papiers. Mon grand-père, il avait pas d'ordinateur. Parce que un conseil à la génération qui arrive, avant de partir pour le grand voyage, supprimez votre historique internet. Parce que vu que tu seras plus là pour justifier sur les vidéos de girafes en porte-jartel, t'as intérêt à faire le ménage. Ça serait dommage qu'à l'église on se souvienne de toi comme Didier, ce bon père de famille, ce patron respecté et ce zoophile amateur. Non mais c'est vrai. Après sur le choix du cercueil, ça se prépare aussi. À chaque fois les gens qui restent, tu sais, ils sont obligés de choisir un truc en acajou avec des coutures apparentes, intérieur cuir, c'est plus un cercueil, c'est une BMW. Il y en a pour un bras et ça finit en feu de camp. C'est quand même dommage d'avoir roulé toute ta vie en Clio pour finir sur une banquette arrière de limousine. C'est con. Tu vois, c'est pour ça. Moi, si vous êtes je sais pas, des palettes, bricoler un truc, au moins ça sera un emmerde de moins pour les héritiers. Le cercueil, la cérémonie, c'est pareil, il faut arrêter avec les discours. Parce qu'il y a des gens, tu les as vus que deux fois dans ta vie, le jour de ton mariage et le jour de ton enterrement, comme par hasard, le pire jour de ta vie et puis l'autre c'est l'enterrement. Et en plus, les enterrements c'est toujours à des horaires pourris, genre 14h30 un jeudi. Ouais. Mais on bosse, nous. Ça changerait quoi qu'on fasse un samedi à 19h ou un dimanche à 15h? Je veux dire, il y a un système d'happy hour dans les cimetières. Si tu viens aux heures creuses, c'est moins cher. Putain. Et puis là, faut qu'on arrête de déconner. Préparez votre épitaphe avant. Parce qu'on connaît la chanson. Dans la bande, t'as toujours un con qui va dire, ouais, mais Bernard, c'était avant tout la joie de vivre et l'humour. Oui, oui, bah, dit qu'il était alcoolique et qu'il regardait tes PMP tous les soirs à ce moment-là. Puis là, tu te retrouves avec marqué à Bernard qui est mort et comme il a vécu, ivre et pas que de bonheur. Bon, bref. À défaut de choisir sa vie, essayons de choisir notre mort. Ça peut nous arranger. Bonne émission.
Merci, Tom Villa.
La bande originale, Lady, sur France Inter.
Avant de recevoir Pascal Neveu, donc, on vous encourage à voir ce film parce que c'est vrai qu'on se projette assez facilement, même si on ne souhaite ressembler à aucun des quatre.
Oh, ça va.
Olivia. On peut être un bout de chacun.
Oui, oui.
C'est ça qu'il faut voir parce que tout le monde est un peu dans des extrêmes. Olivia,
tout le monde
êtes...
est à fleur de peau, oui, en fait. Ça. Tout le monde traverse, ces quatre personnes traversent une des choses les plus
parce que c'est révélateur,
éprouvantes
genre
de la vie, de perdre son père ou sa mère, après il y a perdre son enfant. Enfin voilà, il y a plein de choses. Enfin, y a ces deuils-là, hein, c'est pour ça que Pascal Neveu va arriver bientôt, ça va être chouette d'en parler, mais le deuil,
teasing,
quoi. Le deuil de son père.
Ouais,
Et le mec bosse toute la journée sur le deuil et depuis une demi-heure, il arrête pas de se poiler. Donc en fait, le mec touche bien sa bille. Non, mais ça, c'est une leçon. Le mec touche bien sa bille sur le deuil, il est en place, il est centré, il se marre. Nous, il faut qu'on prenne exemple sur lui. Hein.
Parce que vous avez un rapport délicat, vous, à la mort.
Non, mais moi, je suis en panique depuis que je suis née à l'idée de perdre mes parents. Je me dis, mais s'il meurt, en fait, ça va pas aller, quoi.
Donc, non, c'est sûr, ça va pas aller. Mais,
bah non, mais juste, bah mais oui, mais voilà. C'est... Donc c'est pour ça que c'est un mystère. Et là, ce film est assez beau là-dessus, parce que vous dites, ils sont tous tarés, excessifs. Mais je pense que justement, c'est
moi, j'adore ce
film. J'aime énormément ce film parce que je trouve qu'il y a aucune genre voilà, c'est pas un truc de divertissement, même si c'est très drôle. Vous allez voir ce film est très drôle, on rit beaucoup. Hier en avant-première, vraiment les gens riaient, une espèce d'hilarité un petit peu comme ça, un exutoire. C'est très drôle, mais c'est un film très particulier dans le sens que c'est pas une grosse machinerie avec des gags, avec des effets, enfin voilà, c'est pas un film lourd, c'est un film très fin. Mais voilà, et ça parle de ce moment-là qu'on redoute tous, ou qu'on a tous vécu, de perdre nos parents, putain, c'est hyper dur. Et comment tu te retrouves seul au sein d'une fratrie, parce que tu vis pas la même chose. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper important d'en parler. Et Christophe Lehmann arrive à nous à faire rire avec ça. Je dis bravo. Et bravo de faire rire avec cette chose qu'on redoute le plus.
Tout ce qui ressort avec cette étoile chouchou, cette étoile dernier, cette étoile machin.
Toutes les familles, toutes les fratries vont sans doute reconnaître des choses, évidemment. Donc pour moi, c'est pas des grands tarés, c'est des grands effondrés. Ils viennent se prendre un choc, c'est des accidentés en fait.
Est-ce que vous êtes du genre, Olivia Grégory, à ranger, à nettoyer, à vous débarrasser justement de tout ce qui constitue le passé, le passif dans votre propre vie, déjà là aujourd'hui? Est-ce que vous avez gardé vos bandes dessinées de gamins,
les places de concert?
Ah, moi, j'arrive pas à jeter. Ah.
Tu gardes tout.
Oui, il y a des syndromes comme ça. Je garde pas. Enfin, je n'arrive jamais à jeter lorsque j'essaie de ranger. C'est exactement ce qui se passe dans ce film, c'est que je mets tout de côté en disant non, mais c'est quand même hyper important l'adresse de mon pote de l'époque. Quoi.
Le 01.
Le vieux numéro.
Ouais,
Olivia,
vieux numéro.
Olivia aussi.
Vraiment, c'est
non, moi j'ai pas de cœur. Moi, je jette tout. Moi, j'avance, je passe.
Ça s'appelle Moi, maman, ma mère et moi, et c'est au cinéma aujourd'hui. Voici Guillermo Briggs.
Ah oui.
Ça va les amigos?
Oui. Yo.
Bon, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Quand on me voit, on se dit ce mec,
il est beau.
Il pue la virilité. Hein. Ouais. C'est un vrai mec.
Non, il pue.
Il pue la virilité. Non, dis pas. Tu me vois, tu dis Ernesto, le mec dans la toundra. Ouais. Il te saigne un mort, tu vois. Il le fera pas, il le fera pas. S'il est pas obligé, il le fera pas. Il respecte les mammifères marins, mais c'est un violent, tu vois. Tu me vois, tu te dis lui en présence d'un cric. Peut-être qu'il boulonne, peut-être qu'il déboulonne, mais peut-être pas, peut-être qu'il cogne, tu vois. Et c'est vrai, je suis comme ça, les gens ils ont raison, Nagui, je te le dis. Et ça n'a rien à voir avec l'augmentation que je t'ai réclamé début de semaine et des éventuelles représailles dont on avait parlé. C'est juste que je suis un viril, ça se voit sur ma gueule, c'est comme ça. Et je suis désolé pour nos auditeurs qui voient pas exactement à quoi je ressemble vraiment. Parce que soi-disant, vous préférez écouter la radio, n'importe quoi. Toutes les chroniques sont sur YouTube, je vois pas l'intérêt d'écouter la radio. Mentalité de vieux. Mais on pense pas. On pense jamais à ça, mais la plupart de nos auditeurs, ils ignorent à quoi on ressemble en fait. Vraiment. Ils savent pas que Daniel Morin, il est blond vénitien et qu'il a une coupe au bol. Ils ignorent que Tom Villa, d'une certaine manière, il ressemble à Dominique Rocheteau. On le sait pas. Peut-être que dans l'esprit de nos auditeurs, Nagui, il est longiligne. Va savoir. Mais ceux qui nous regardent sur YouTube, ils peuvent pas se tromper. Ils savent qu'en vrai, j'ai un physique de... Allez, disons que je pourrais être dans le groupe Powwow. Voilà. Je pourrais pas être dans Walls Apart, mais je pourrais être dans Powwow. Vraiment. C'est dit, et tant que faire se peut.
Powwow.
Le chat.
Ouais. Le chat.
J'essaie d'être un mec viril dans la vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lundi soir, je me suis offert un massage du crâne. J'ai pas me justifier. Je bosse sur une radio communiste dans une émission perte de vitesse avec des collègues. J'ai pas me justifier. Voilà, je décompresse et tout. Je m'installe sur la table pour le massage et la fille qui est une copine, elle me dit je vais d'abord te faire un petit soin visage. Je lui dis un petit soin visage. Est-ce que ce serait pas par hasard, toute chose étant égale par ailleurs, un truc de meuf, hein? Est-ce que tu m'as vu? Est-ce que je suis une meuf, hein? Est-ce que quand tu me vois, tu dis oh, il a de belles formes qui me gardent à champ? Non, négatif. Moi, je suis un mec. On touche pas mon visage. Voilà, je me laisse pousser la barbe. Bon, il s'avère que ma barbe, elle préfère rester dans mon derme. C'est, chacun ses projets, tu vois. C'est pour ça que je ressemble moins à Sébastien Chabal qu'à Leïla. Voilà, c'est comme ça, mais en tout cas, moi, on me fait pas un soin à visage. J'ai jamais mis de la crème hydratante sur mon visage. J'ai de la crème hydratante chez moi. J'en ai. Mais elle a jamais vu mon visage. Ça, je peux vous dire, franchement, je peux vous dire. Donc, ok.
Quoi?
Il faut que j'en rachète. Mais elle a jamais vu mon visage. Ça, je vous dis. Donc, j'ai dit, voilà, ok, bah, fais-moi ton soin visage de gonzesse, là, fais-le-moi. Mais si t'en parles à quelqu'un, je dirais que t'as essayé de me toucher. Je te ferai un mytho. Je te dis directement, je te ferai un mytho. Elle m'a nettoyé le visage, donc couche après couche. Elle a extrait mes points noirs. Il y en avait 2000, je crois qu'elle les a compactés. Elle a fait une poterie. Vraiment, c'est un truc. Elle m'a fait un gommage, elle m'a fait un masque. Elle m'a fait un putain de masque. Je me dis, ça y est, j'ai un masque de beauté sur la gueule. Moi, c'est fini. Je suis un mec fini. Je vais sortir dans la rue. Mon gars, il va tomber tout seul, tu vois. Et vu son poids anecdotique, quand il tombera, bah, je l'entendrai pas tomber, tu vois. Donc, je vais l'égarer. Qu'est-ce qui va se passer un jour? Je vais aller, comme par hasard, sur le bon coin. Qui je vais retrouver? 7,89€. Je vous le donne en 1000. Et donc, voilà. Et je me disais ça quand elle me tartinait les joues avec son espèce d'huiles essentielles, choucroute, pain d'épices, là. Je me disais, je suis en train de faire le truc le moins viril que j'ai jamais fait de ma vie. Je me disais, si Dieu existe, dans l'au-delà, il va me mettre chez les filles, avec Régine, tu vois. Et je me disais ça, c'est trop la honte, quoi. Et je me disais, mais en même temps, comment c'était bien, quoi.
Ouais, ouais.
Oh, comment c'était, toutes les sensations étaient agréables. Tout, ça sentait bon, c'était frais. La dernière fois que je m'étais senti aussi bien, c'est quand la France a perdu contre les Pays-Bas. Vraiment, c'est pour vous dire, j'étais, et je me disais, putain, mais pourquoi on se coupe de ça?
Merde, tu
es. Pourquoi on se coupe de ça? Pourquoi les mecs on se coupe de ça? C'est trop bien les soins visage, ouais. C'est bien parce qu'en fait, je suis sorti de là, j'étais pas moins viril quoi. J'ai croisé un morse, j'ai mis une patate, tu vois. Je lui dis, donne le message à Nagui, vraiment. Et je lui dis vraiment, j'étais pas moins mec, j'étais juste plus propre et je me sentais mieux en fait.
Ouais.
Ce que je veux dire par là, les amis, c'est que les filles, si vous avez d'autres plans secrets comme ça, faites péter parce qu'on le sait pas encore, mais on est demandeurs. Allez, bonne émission.
Merci Guillaume Auguste.
L'épilation, peut-être.
Et vivement la Coupe du Monde dans 4 ans. Hein.
Ouais. Et je l'ai retrouvé à 6,50€. Bref, c'est autre chose.
En musique, qu'est-ce qu'écoutait Olivia Cotte? C'était en fin des années 90.
Y'a pas d'arrangement, pas de grimace.
Zebda.
Y'a pas d'arrangement, se regarder dans une glace. Y'a pas d'arrangement, on a fait ça pour faire la fête. Y'a pas d'arrangement, cette folie on l'a fête. Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement, y'en a pas d'un homme.
Ils ont pas d'accent.
Elle est bien cette expression. Non, mais parce que c'est motivé. Il y avait évidemment tomber la chemise, le bruit, l'odeur qui était formidable aussi.
Un album sublime qui s'appelle Utopie d'Occase qui est extraordinaire. Je sais pas si vous connaissez cet album où il raconte vraiment toute l'histoire de l'immigration. Il est incroyable. Ça commence genre c'est sympa et tout ça. C'est des petites chansons rigolotes. Ouais. Et plus ça avance, plus c'est.
Non, mais c'est des vrais textes. Ouais,
ah, bah.
C'est les mecs les plus géniaux du monde.
Majid Jaffi, c'est un grand auteur.
On l'avait reçu pour son livre. Absolument.
Hyper beau. Non, je suis très très amoureuse de ce groupe, je les aime très fort. Et c'est vrai que j'ai écouté ça beaucoup, je l'écoute encore très régulièrement, j'adore.
On a parlé tout à l'heure, Olivia, de Judith Siboni, de votre passion pour la danse transmise par votre père.
Tout à fait.
Vous êtes super assidue, fut un temps, au cours de claquettes.
Oui, c'est j'ai recommencé d'ailleurs, je suis complètement à la ramasse, putain. C'est très très dur. faut être un peu intelligent.
Comment ça?
Bah en fait c'est une danse très difficile. Faut pas être, faut avoir des neurones en fait.
Il faut avoir, ouais c'est ça.
C'est très très dur. C'est de la musique en fait.
L'autonomie de tous les membres.
C'est ça, exactement. Voilà.
L'indépendance.
Et on vous retrouve aussi au TNS de Strasbourg, vous passez par là. Avant ça, vous avez déjà mis en scène une pièce, vous avez déjà joué un texte que vous avez écrit, je crois que c'était...
Mon père jouait dedans d'ailleurs.
Ah, vu de la lune, on est tous bleus.
Oui.
Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est cette pièce? Oh, bah, j'ai écrit ça, j'avais 21 ans, donc comment vous dire. Ouais. Mais c'était drôle. C'était drôle. Je ne vais pas vous parler de cette pièce qui n'existe plus depuis 1000 ans. Mais c'était une pièce très marrante.
Alors, mais quelle forme d'humour? C'était totalement barré. Monty Python.
Peut-être, oui. C'était très visuel. C'était absurde. C'était des situations débiles. C'était sur la difficulté de devenir adulte. J'avais 21 ans. Je me disais, putain, il faut devenir adulte maintenant, relou. Donc c'était vraiment sur ça, sur le passage de l'enfance.
Olivia, en termes de vanne, à quel moment vous êtes rendu compte que vous n'aviez pas de filtre?
Bah quand mes amis viennent tout rouges et qu'ils disent non là tu me fais honte, c'est souvent ça. Moi je m'en rends pas compte en fait, mais souvent mes meilleurs
votre
amis.
Votre première garde à vue c'est un indice.
Non mais exactement. Non mais souvent en fait le sens de la limite vient dans quelqu'un qui devient tout rouge et pourtant qui m'aime très fort. Certaines de mes amies me disent encore t'es la personne qui fait le plus honte au monde. Et là je me dis ah bon mais pourquoi? Parce que ça se fait pas du tout ce que tu viens de faire.
Mais c'est pas mais c'est pour ça que c'est drôle.
Bah peut-être que moi, au fond de moi, ça m'amuse d'avoir des gens consternés, stupéfaits à côté de moi, c'est drôle.
Je me rappelle la scène dont on avait parlé ici, où une maman donne le sein à table et votre personnage s'énerve.
Ah, ça c'est dans La Fête des Mères. Oui, La Fête des Mères. Ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, cette scène,
pour
le coup.
Non, mais elle vous va extrêmement bien. C'est-à-dire que...
Là, c'est plus un peu de la folie, de la colère folle que de la provocation pure, mais...
À cause du vécu du personnage.
Voilà.
On passe à la musique de Grégory Montel, c'était Radiohead. C'est pas le Radiohead le plus
Everything in its right place.
Le plus dansant et le plus fou, mais c'est le groupe, c'est le meilleur groupe de rock du monde.
C'est le meilleur groupe de rock du monde, hein, quand même.
Ouais, il va falloir le dire.
Comme Marseille,
avec Arcade Fire.
Comme l'OM, quoi.
Comme l'OM.
Oui, c'est ça. Et à cette période-là, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le départ d'Aix. Pour les raisons que l'on sait.
Ouais.
Vous l'avez pas revu? Vous l'avez pas revu?
Mais si, c'est une sœur.
Ah, maintenant, c'est devenu une copine.
Bah, c'est une sœur, même.
C'est vrai que cette bande-son, tout d'un coup, on voit bien la dépression de la rupture amoureuse.
Mais.
Et donc, peu importe, Grégory, tout va bien maintenant. Vous êtes sauvé.
Il y a Creep
aussi. Ah ouais, vous êtes à Paris, tout d'un coup, et vous faites des études. Judiciaire.
Tu dis ça comme si c'était une surprise.
Moi, je suis avocat de formation, moi. Alors, du coup, j'étais à Paris pour faire l'institut d'études judiciaires, oui, et préparer le barreau.
Et pourquoi vous avez arrêté?
Parce que j'ai commencé le théâtre je trouvais que les avocats étaient de piètres comédiens, en vérité, par rapport à ce qu'on dit. Bah oui, les avocats sont de piètres comédiens, c'est-à-dire qu'ils sont en surjeu permanent.
En ce moment, il y a Dupond-Moretti qui est ou qui va être, je ne sais pas qui est.
Sauf que Dupond-Moretti est un bon comédien.
Mais un mauvais avocat.
je crois que c'est le meilleur des meilleurs.
Ah ouais.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que la notion d'être dans un rôle, d'incarner, de jouer, de porter la voix, on voit bien que ça
bien
pas bien ensemble quand même.
Oui, c'est un truc de l'ordre de l'empathie, c'est-à-dire d'aller récupérer l'histoire d'un autre et de se l'approprier.
Et donc,
ça, c'est sûr. Et de la manière de raconter une histoire.
Oui, absolument. Absolument. Et aussi un esprit, moi qui me... Là, ça se voit pas au moment où je parle, mais un espèce d'esprit logique avec un début, un milieu, une fin.
Non, mais une structure mentale.
Vraiment une structure mentale. Vous imaginez, si j'avais pas fait du droit, ce serait une espèce d'ectoplasme.
Ménager une chute, quoi.
Exactement.
Arriver pour un effet.
Mais oui.
Ouais.
Mais non, mais voilà, quelque chose. Voilà, fabriquer quelque chose et puis. J'ai du mal.
C'est-à-dire,
il y a Olivia qui m'impressionne.
Et trouver la chute et vous prouver que c'était le problème.
Non, mais j'ai la chute pour vous. C'est les cours Florent et c'est la découverte aussi de metteurs en scène, notamment Thomas Ostermeyer.
Ah oui, Thomas Ostermeyer, oui. Oui, Hamlet, quoi. Et Hamlet qui commençait par une espèce de gros morceau à la Radiohead où tu rentres dans la salle et puis tu peux plus rien entendre. Et c'est le spectacle le plus incroyable que j'ai jamais vu. Avec, justement, on va parler avec un deuil. C'est une histoire que d'un deuil, Hamlet. Et donc, dans le spectacle d'Ostermeyer, en fait, la première scène, c'est l'enterrement du papa et le cercueil refuse de rentrer dans le trou.
Ouais.
Il refuse de rentrer dans le trou, c'est-à-dire qu'il rentre dans le trou, puis pouf, il sort. En fait, le cercueil ne veut pas rentrer dans le trou. Ça raconte quelque chose, ça, quand même.
Vous avez vu là la pièce d'Ostermeyer en ce moment qui est à Paris?
Non, je ne suis toujours pas allé.
Pas encore, moi aussi.
Il paraît que c'est raté.
C'était intéressant.
Non.
C'était intéressant comme discussion. Tu l'as vu,
non,
et toi, non, non.
Oui,
non,
c'est vrai, pour les spectateurs.
Ouais.
Et puis évidemment, en plus, ça se passe à Paris. Alors, j'imagine, comme d'habitude.
En 2007, Olivia Cotte, vous écoutiez. Et dire. Cette musique vous fait penser à quoi ?
À la beauté. Je suis très amoureuse de ce chanteur. Je l'ai vu en concert en plus à Fourvière. C'était extraordinaire. Je suis amoureuse de cet homme comme on peut être amoureuse de Schubert ou d'autres artistes ou de Bob Dylan. J'adore cet artiste, j'adore ce chanteur.
Vous touche et
J'ai regardé la traduction parce que je ne parle pas berbère, hein, évidemment.
Donc, ça craint.
Ah ouais, ça craint.
Ah bon,
j'ai regardé toutes les traductions françaises, ces paroles sont dingues. Ouais, je me disais. Voilà, donc j'écoute régulièrement des chanteurs ou des musiciens qui me font du bien et Lydia me fait énormément de bien.
Mais c'est bien de faire la démarche de comprendre les paroles.
Ah bah oui.
Oui, mais c'est pas toujours le cas, même chez ceux qui
aiment. Pour moi c'est évident.
Qui aiment Dylan ou qui aiment Leonard Cohen, tout le monde ne va pas forcément traduire les paroles. C'est pas.
Ok, ça me paraît évident.
La dernière fois
j'ai découvert des paroles de Marvin Gaye où je me dis ok, cette chanson est magnifique, je sens qu'il y a une grande tension, mais je ne sais pas de quoi il parle.
Avez-vous été déçu?
Non, j'étais hallucinée. C'est Inner City Blues. J'ai hésité d'ailleurs avec celle-là. Où c'est une chanson de rage, de colère, où il est très très en colère contre le système, où il dit c'est pas une vie, et il chante de manière très douce. On dirait qu'il chante une berceuse à un enfant. Alors que c'est une vraie chanson de révolte et de colère, je trouvais ça merveilleux.
Et y dire au point d'aller aussi découvrir le Maghreb.
Oh bah oui, je suis allée en Algérie cet été, c'est dingue. Hein. Qui va en Algérie? Oui.
Mais c'est la musique qui vous a emmené vers le pays ou c'est,
Non, c'est un homme.
Très bien.
Voilà.
Chacun son boulot.
Ouais, en 2007, on vous retrouve dans ce programme court qu'on a adoré, Vous les femmes, avec Judith Siboni, bien sûr, où vous vous permettez absolument tout. Tous les thèmes sont évoqués, où on ne traite pas en effet la femme juste comme une incarnation d'une forme de sensualité absolue.
Ouais, c'est relou.
Ça veut dire que vous avez bossé ensemble pour l'écriture, vous étiez. Comment ça fonctionnait?
En fait, c'est vrai qu'on se connaît depuis qu'on a 13 ans et qu'en effet, on imitait vraiment. Les G.I. ont rampé. Enfin. On s'est rencontrés très tôt sur ce terrain de rire ensemble. Donc, quand on a eu, je sais plus, 35 ans, on s'est dit, viens, si on crée. Au début, on pensait à une pièce de théâtre, parce qu'on vient toutes les deux du théâtre. Donc, on pensait à un spectacle de théâtre très visuel, comme ça, que ça soit Ostermeyer ou des chiens. Enfin, et en fait, on a créé ce petit programme court, qui était une autre forme, mais on a beaucoup ri à le faire. Mais après, c'est vrai que par rapport aux limites, moi, j'ai été élevée par un homme qui faisait vraiment de la polka dans des boutiques pour me faire marrer. Donc, mon degré, mon curseur de.
Mais la chaîne, le diffuseur, en revanche, là, est-ce qu'il a pas été un petit peu plus, comment dire.
J'ai pas compris.
La chaîne.
Ah, bah, c'était Teva. Donc, Teva, on pouvait faire ce qu'on voulait. On aurait été sur M6 directement ou sur d'autres chaînes. On aurait dit, non, là, on voit vos poils pubiens, ça se fait pas.
Nous faisait marrer. La nudité a été un problème.
Ah bah on floutait les poils pubiens. Donc nous ça nous est vraiment marré. On passait quand même des heures de montage en disant non mais là on revoit un peu le mot. Enfin on passait des heures à flouter des poils pubiens quoi. Alors qu'on a tout à foutre dans la vie. Mais bon voilà. Après c'est en plus comme c'était pas du tout sexuel ou vulgaire, c'était un.
Non c'est drôle.
C'était voilà.
Il y avait une scène. Alors je sais pas si de la raconter ça.
C'est compliqué de casser cette image.
Moi je me souviens de la scène où on voit une. Vous êtes toutes les deux. L'une à le haut du maillot de bain, l'autre est seins nus.
Ah oui.
Et vous êtes en train de parler et de marcher comme ça. Et la caméra vous suit, on se dit ok, il y en a une qui est pour les seins nus et pas l'autre, et vous dépassez la caméra, puis la caméra vous prend de la tête aux pieds, et on voit que celle qui est seins nus a un maillot en bas, et celle qui a le maillot en haut ne l'a pas
voilà.
En bas.
Voilà, en fait elle prête son maillot, elle dit je te prête un bout de maillot, je partage mon maillot avec toi, mais voilà, il y en a une qui se retrouve
tellement drôle.
Et c'est une série qui a été adaptée, je crois, à l'étranger.
Ah oui, oh là là, nul n'est prophète en son pays. Oui, ça marche très bien dans d'autres pays. En France, c'est pas très connu. Ça me fait très plaisir que vous en parliez.
C'est culte pour moi.
Tout ce qui est exagéré ne compte pas. C'est trop ce que vous dites.
Non, mais il y a eu des guests qui sont venus dans la série.
Oui, ah ben non, mais ça me fait très bien parce que moi j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à faire cette chose parce qu'on a beaucoup ri. Donc voilà.
Je suis sûr que les vues sur YouTube et machin, ça doit cartonner.
Oui, ça va depuis quelques temps. Mais par exemple, en Angleterre ou en Italie, c'est extrêmement connu. En Italie, c'est vraiment un programme très 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 connu. Même la petite fille de Mussolini, qui, comme son grand-père, a fait des procès pour que ce truc. Enfin, ça a été un peu culte en Italie. Ouais, bien sûr.
C'est
en
chic.
Angleterre, ça marche très très bien.
Avoir un procès de Mussolini en 2019, c'est classe.
C'est génial. Ouais. Donc voilà. Et en France, c'est quand même assez.
Écoutiez, quant à vous, Éric Montel, la BO du Para.
Et on vous retrouve dans votre one man show à cette époque-là.
Ah oui, oui.
Si je reviens.
Non, si tu reviens, j'annule tout. Oui, c'est Sarkozy qui avait dit ça, à son ex.
C'est un texto qu'il aurait envoyé.
C'est un texto qu'il aurait envoyé. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Mais moi, j'avais écrit ce one man show pour essayer de récupérer celle que j'aimais à l'époque.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai.
C'est le résumé de votre vie.
Ben, c'est ça. Ben oui, mais on est. Je suis un nature. Je suis un provençal. En fait, les provençaux, c'est sensible.
Je sais pas.
Il faut toujours remettre un peu de ça. Non, mais et c'était bien. Et j'étais heureux. En fait, j'avais.
Et c'était autour de textes, aussi. Ouais,
J'avais lu Roland Barthes avec son fragment de discours amoureux. Ça, je le conseille à tous les gens qui viennent de se faire larguer.
Je me regarde.
Bon, alors, je ne sens rien.
Tu vas avoir une vie privée ou pas,
mais je suis à la radio, les gens sont pas censés savoir que je t'ai regardé. Non, mais
ça pourrait être privé, elle va être privée.
Oui, c'est vrai. Enfin, voilà. Et du coup, je me suis amusé à agréger tout ça, tous ces textes-là. Et puis, pour essayer de raconter une histoire où la maman était d'ailleurs très, très, très présente. Voilà. Ça racontait l'histoire de quelqu'un qui veut essayer de digérer sa perte amoureuse en rentrant dans l'humanitaire, parce que évidemment quand t'es malheureux, ouais, tu vas faire de l'humanitaire et tu vas faire chier d'autres personnes au-delà des frontières, voilà.
Bah, le malheur qui fait rire par moment ou qui fait réfléchir, c'est dans Moi, Maman, Ma Mère et Moi. Ça sort aujourd'hui au cinéma, et Pascal Neveu qui a été
tellement attendu,
annoncé depuis 5 ans.
Et vous avez intérêt à être bon, hein, parce que comment on fait pour pas être trop triste?
Psychanalyste et psychothérapeute, d'abord. Ouais, la question, la première,
y a-t-il
des deuils impossibles?
Il y a des deuils compliqués, il y a des deuils pathologiques, mais des deuils impossibles, non, c'est impossible. Parce que quoi qu'il en soit, nous savons tous que nous allons mourir un jour.
Excellent départ.
Oui, c'est bien pour plomber l'ambiance, d'ailleurs.
Non, mais accepter sa propre mort ne veut pas dire accepter celle des autres.
Mais on est bien d'accord. Et ensuite, bien évidemment, chaque deuil est singulier, chaque deuil est particulier, en fonction, effectivement, du deuil, par exemple, d'une mère qui a donné naissance et qui meurt à un moment donné. Je pense que c'est un des deuils les plus compliqués. Un autre deuil qui est extrêmement compliqué également, c'est la mort d'un enfant. Et également, qui est absolument atroce.
Elle n'est pas dans la logique naturelle.
Totalement,
déjà.
Tout voilà, à fait. Effectivement, dans l'accompagnement, la compréhension, effectivement, de la mort et de la vie, toutes ces questions philosophiques qu'on peut avoir.
Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui refusent de faire son deuil et qui gardent justement les chambres, les pièces, les objets comme une espèce de mausolée en ne touchant à rien?
Oui, je le connais parfaitement parce qu'en plus, moi, je travaille et j'ai créé la cellule psychologique pour les veuves et les orphelins de sapeurs-pompiers. Donc, effectivement, lorsque vous avez un symbole héroïque, etc., et quand vous avez une représentation très symbolique d'un père, d'une mère, qui a eu une forte représentation, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez des mausolées qui sont créées, vous avez des chambres qui sont réellement de véritables musées, vous avez effectivement des endeuillés qui cultivent cela, qui sortent les affaires, qui vont les laver tous les 15 jours, etc., etc. Mais là, on est sur des deuils très pathologiques. Ouais. On n'est pas dans ce cas-là au niveau du film. Même si le fiston...
Joué par Grégory Montel, parce qu'il y a deux fils, il y a Philippe et Grégory.
Oui, oui, tout à fait. Voilà, deux personnalités totalement différentes.
Clairement.
C'est très intéressant parce que, en plus, il vit à un moment donné, Grégory, ce que très peu de personnes racontent, c'est-à-dire qu'on a l'impression, on a des hallucinations. Très peu de endeuillés le racontent parce qu'ils ont l'impression sinon de passer pour des schizophrènes. Mais ça arrive très fréquemment et ça peut nous arriver bien des années plus tard. Mmh. On a l'impression à travers une nuque, à travers un parfum, etc., de retrouver quelqu'un qui est décédé, de se dire « mais tiens, il n'est pas mort ».
Ce ne sont pas des hallucinations.
Ce sont des hallucinations, sur le plan psy.
Oui, c'est des retours sont des souvenirs.
Nagui, monsieur spécialiste.
Mais parce que...
Mais pas du tout. Non, mais pas du tout. Je peux retrouver dans le sourire d'un de mes enfants le regard ou l'expression du visage de ma maman. Donc c'est pas une hallucination.
Mais parce que à travers le deuil, c'est se dire à un moment donné, ça n'existera plus. Et Freud le dit à un moment donné également, l'épreuve la plus compliquée, l'étape la plus compliquée et l'étape aboutie, c'est se dire à un moment donné, j'ai tué le mort. C'est-à-dire, c'est comme si psychiquement.
Alors faut-il le faire?
Mais psychiquement, il faut le faire à un moment donné.
Pourquoi?
Mais tout simplement parce que c'est un peu laisser mourir pour vivre. et non pas vivre et laisser mourir, mais ça on est dans du double 07.
James Bond,
c'est voilà,
ça.
C'est ça.
Oui, d'ailleurs,
mais
on voit dans le film
dans,
que, le,
dans
le,
cette complexité
que le personnage masculin se sent tout d'un coup plus ouvert à la paternité, parce que il y a eu un travail aussi qui est fait sur la disparition de la mère.
Tout à fait, on
Alors
est bien là-dedans.
Quelle est la nuance entre faire le deuil d'une personne qui nous a quittés et l'oublier? Et ne pas l'oublier.
Ne l'oublie jamais.
Voilà, certaines personnes ont peur en disant faire le deuil, ça veut dire ne plus en parler ou l'oublier.
Alors on passe sur tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la théorie de l'encryptement. Et ce qui fait, à un moment donné, qu'effectivement, c'est Maria Torok et Nicolas Bram qui l'ont écrit, dans L'écorce et le noyau notamment, qui permettent de décrire qu'à un moment donné, si on ne fait pas le deuil, le défunt va revenir tel un fantôme et va nous hanter sans cesse. Et c'est ce que vous vivez à un moment donné dans ce film quand vous voyez effectivement votre mère. Et donc il faut effectuer ce deuil à un moment donné.
Et le fait pour le personnage de Grégory Montel d'être absent à l'enterrement, c'est au-delà de la culpabilité de l'acte manqué.
Là, on est sur tout à fait autre chose, c'est-à-dire que le rituel funéraire est extrêmement important. Il est totalement, mais fondamental. Pardon. Pour un enfant, on peut pas le réclamer, on peut pas l'obliger de toute façon, mais pour un adulte, effectivement, on le voit très bien. Il y a une scène de somatisation absolument exemplaire au début. On voit très bien en plus la scène au niveau lorsque vous êtes assis sur la tombe, et puis en plus, ce qui est hallucinant, c'est la musique que vous avez au niveau du téléphone portable. Alors ça, c'est génial. Et vous avez notamment une œuvre théâtrale et un opéra qui s'appelle La Ville morte, Die Tote Stadt, qui a été rédigé par Korngold. Et il y a à un moment donné une scène où effectivement la femme qui est totalement décédée revient tel un fantôme, avec des scènes de fantômes qui viennent avec des petits hurlements comme ça, etc. C'est très intéressant. Mais ça nous hante énormément. C'est-à-dire que ça fait partie de notre vie. La mort fait partie de notre vie.
L'enterrement, vous dites, c'est quelque chose de très important. Oui. Vous avez dit, les enfants, c'est autre chose. Faut-il emmener les enfants ou non aux enterrements?
Alors, on leur propose. S'ils ne le souhaitent pas, on évite effectivement de les amener. Mais ensuite, on organise, et ça, on le met en place effectivement dans des thérapies très particulières, pardon, sur les deuils un peu compliqués, où on propose effectivement par la suite de proposer un petit rituel funéraire. On le voit très bien au niveau des études des pompes funèbres générales. Le rite funéraire et le dire adieu à quelqu'un est extrêmement important. C'est-à-dire le besoin de se dire ça a été une belle cérémonie.
Autre chose de particulier dans le film, et d'ailleurs Olivia Cotte l'évoquait tout à l'heure, est-ce que c'est la même chose quand on est enfant unique ou quand il y a une fratrie, la gestion du deuil, le fait de ne plus être un enfant finalement, parce que la perte du dernier parent vivant, ça veut dire devenir totalement adulte? Et être seul ou être aidé par ses frères et sœurs, c'est pas la même gestion.
Alors ça, c'est ça qui est intéressant, à la fois génial et dramatique, c'est-à-dire que à ce moment-là se cristallise toute la systémique familiale, c'est-à-dire que il y a la complexité, les jalousies qui ressortent. Et c'est très bien démontré d'ailleurs dans le film à certains moments. Bien évidemment qu'il y a un épaulement qui peut avoir lieu, mais ensuite, et c'est ce que vous racontez,
voir des conflits qui explosent.
Oui, il y a des conflits qui explosent, mais tant mieux. À la limite, ils sont bénéfiques parce que ça permet de planifier les choses et puis de passer à tout à fait autre chose. Mais ensuite, il ne faut surtout pas que quelqu'un prenne la place, effectivement, du père substitut, de la mère substitut, etc. Chacun doit conserver sa place.
Ouais, chacun a sa place, y compris dans la fratrie, de l'aîné à la cadette. Ouais. Merci beaucoup,
merci
Pascal,
à vous.
D'être venu. Bah, tu veux lui poser une question?
Après, c'est 50 euros.
Hein.
Non, ça, c'est tarif minimum.
Pascal Neveu, c'est facile à retenir.
Il était bon, Pascal.
Psychanalyste, il est toujours bon. Et psychothérapeute, directeur de l'Institut psychanalyste Active. Tanguy Pastureau, bonjour.
Bonjour.
Il n'y a pas que les êtres humains qui disparaissent, les insectes aussi disparaissent.
Oui, c'est une bonne nouvelle, Nagui. Fini les piqûres d'araignées, les tiques enfoncées dans les mollets. Maintenant, quand on aura mal, c'est juste qu'on aura fait une soirée cuir et menottes. Mais il va falloir attendre un peu, puisque les scientifiques le disent, malheureusement, c'est pour dans 100 ans qu'il ne restera plus un moustique.
On en parle après les infos. Ouais. Original avec Leïla Kadobou-Dabi qui sera ce soir aux manettes des victoires de la musique classique sur France 3
avec
et sur
pianiste Lang et France Musique.
Très bien. Daniel Morin.
Oui, bonjour Leïla.
Tom Villa.
Bonjour.
Guillermo Duiz.
Oui, également.
Tanguy Passion.
Ce soir chez moi.
Et nos amis à regarder Leïla. et nos invités Olivia Cotte et Grégory Montaigne.
Bravo, casting de malade.
Comment vivre un deuil? On l'a dit tout à l'heure, mais comment faire un film humain, drôle, souriant, touchant aussi, avec... non mais c'est vrai, il n'y a pas... tout à l'heure vous disiez, on rit, oui, mais il y a des moments aussi on est ému. On est touché par cette situation, d'abord parce qu'on se projette chacun, chacune, en se disant que l'on soit enfant unique ou dans une fratrie, en se disant, est-ce que je suis dans ce style-là ou pas? On a tous une chambre d'enfant. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette chambre d'enfant? Est-ce que nos objets dans des cartons, dans une cave, dans un grenier, quelque part? Est-ce que... Et puis, si on a la chance d'avoir ses parents, est-on vraiment prêt à affronter le jour de leur départ? Et puis, si on les a plus, comment est-ce qu'on a géré ce départ? Tout à l'heure, on parlait de Pascal disait d'hallucination ou de réminiscence, comme ça, de retrouver ce que l'on perd le plus. Malheureusement, d'ailleurs, c'est le son de la voix, mais des regards. Ça vous mine ce que je dis, Olivia?
Ah ouais, grave. Mais bon. Je vais aller voir parce qu'elle ne veut, je vais mettre tout mon argent dans des consultations.
Non. Alors, ce qu'il faut se dire, dites-vous une chose, c'est que là, aujourd'hui, par rapport aux générations précédentes, on les enregistre, on a des vidéos, on a les téléphones, on peut garder les
empailler.
Les répondeurs.
On peut complètement les empailler, c'est vrai.
J'ai mes quatre grands-parents.
Vous me donnerez l'adresse.
Je peux dire, ils sont souriants.
En tout cas, il y a un jour un copain qui m'avait donné ce conseil et qui est valable quand ça se passe entre amis, entre potes et pas uniquement membres de la famille, c'est de continuer de prononcer le prénom de quelqu'un qui n'est plus là. Et moi, je trouve ça beaucoup plus fort de parler de quelqu'un qui n'est plus là, ce qui est le propre des artistes. Quand on dit Lino Ventura, Johnny Hallyday, France Gall, Charles Aznavour, ils continuent d'exister simplement parce que, évidemment, ils ont leur répertoire, ils ont leur talent. Mais quand il s'agit de membres de la famille ou de copains, de citer comme ça le prénom, de dire Pascal, Christian, Fabien, même si, entre guillemets, nos amis ne sont plus là... Ça leur permet encore d'exister, de raisonner. Allez, ça va aller, Olivia.
J'ai bien fait de venir ce matin, vous m'avez reboosté.
Ah bah la première heure est sympa, la deuxième est beaucoup moins sympa.
Ouais, d'autant qu'il n'y a qu'une demi-heure. Moi, maman, ma mère et moi, le film de Christophe Lemann. Est-ce qu'il y a une part perso de l'histoire de Christophe dans ce film?
Oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Ouais. Il s'est inspiré des rapports, des relations qu'il avait avec ses frères et ses sœurs, oui.
Et du départ de sa maman aussi, enfin c'était toute la situation.
Le secret fait pas partie de l'histoire familiale, il a inventé ça. Mais oui, tout à fait, les relations, les tensions, les gouffres, les...
Ouais, j'ai l'impression que même les individus se retrouvent assez.
Ouais,
hier soir, ils étaient là, les frères et sœurs.
Bah, la sœur m'a dit, je me suis vue, même si on se ressemble pas physiquement. Je me suis.
Imitation de Grégory.
C'est exactement ça, parce qu'ils sont pas du tout, ils ont pas du tout cet accent-là.
Non, ils sont ch'tis, donc.
Ouais, c'est ça.
Mais vous, alors, on vous l'a peut-être déjà dit, et prenez-le comme un compliment de ma part, vous avez par moments des intonations de Daniel Auteuil.
Alors ça, c'est sûr et certain. Non, mais ça, c'est sûr et certain. C'est la première chose qu'on m'a dite lorsque je suis arrivé à Paris. Et c'est Dominique Bestéard qui est mon frère.
Et qui s'y connaît en prononciation.
Exactement.
C'est la référence. Hein.
Exactement. Qui m'a dit ça comme ça. Alors je le referai pas évidemment. Non. Mais qui m'a dit, t'as quelque chose de Daniel Auteuil. Voilà.
Il y a un petit côté de Funès aussi.
Ouais, moi j'aime bien cette chose-là, très. Ouais, tu parlais des grimaces. C'est des choses malheureusement qu'on apprend un peu à éteindre un peu parce que au cinéma la grimace elle peut être parfois un peu compliquée à l'image. Donc on a. Mais avant, probablement j'étais un trigrimaceur aussi.
Mais tout va bien. Vous êtes tous les deux, tous les quatre, de brillantissimes comédiens.
On vous remercie.
Non, c'est vrai. Non, mais sincèrement. Et où que vous soyez, d'ailleurs, quel que soit le projet, nous, on est toujours partant quand on voit vos noms, ceux de Philippe, Lolita, Grégory, Olivia.
On est content d'être là.
C'est bien. Moi, ma maman, ma mère et moi, Grégory Montel, Philippe Rebaud, Olivia Cotte et Lolita Chama, j'étais très classe en disant d'abord les garçons et après les filles. Tout ça, c'est au cinéma. Et c'est signé Christophe Lemann. Voici Tanguy Passion.
C'est ça.
Tanguy, cette semaine, vous m'avez plombé le moral tous les jours.
Oui, je comprends. Lundi, j'ai parlé de l'antisémitisme. Hier, du harcèlement. Je réalise que l'époque me pousse moi-même de l'état de comique à celui de dépressif. Je suis passé de Patrick Bosseau jouant au boule en short à Eddie Depreto en train de s'enrouler les cheveux autour du cou pour se pendre. C'est pourquoi ce midi, j'ai choisi un sujet léger, la disparition des insectes. Enfin, une bonne nouvelle. Lundi, une revue scientifique, le Biological Conservation, c'est comme TéléZ mais sans le chien et avec des éprouvettes, annonçait qu'avant 100 ans, il n'y aura plus un insecte sur Terre. Fini les pique-niques gâchés à cause d'une guêpe venue goûter à la bouteille de Valstar. Terminé les fourmis qui se glissent sous nos portes à 500 juste pour récupérer un bout de BN tombé par terre. Le vide de l'existence de ces êtres est effarant. Alors ça vient un peu tard, cette disparition des insectes. 30 ans avant, on échappait à Michel Leb à quatre pattes en train d'imiter le cafard. Mais le principal est que ça arrive. Parce que ces bâtards nous ont pourri la vie. Exemple en 2013 à Madagascar, cette île dont on dirait de Pascal Obispo qu'il en est originaire si jamais il était né là-bas. Ils ont été envahis par des criquets qui ont saccagé les cultures. Après récolte, les gamins dans leur paquet de Crispies n'avaient que deux grains de riz soufflés, moins que de personnages sur la boîte. Et même dans les diplets d'Égypte, la première c'est le Nil fut nauséabond. Bon, et alors, vous croyez que la Seine elle sent bon? Moi, à chaque fois que je vais me promener au bord avec quelqu'un, je suis obligé de lui dire, je te jure, c'est pas moi. La deuxième plaie, ce sont les grenouilles qui tombent du ciel. Ah bah les Égyptiens à cette époque-là, on n'était pas sur du Nagui qui touille son thé vert. Ils prenaient des drogues très puissantes. Même Steven Tyler d'Aerosmith en 78 n'a pas vu de pluie de grenouilles. Et donc les troisième et quatrième plaies, non, ce n'était pas Benjamin Griveaux et Marlène Schiappa, ils n'étaient pas nés. Mais les insectes qui ont ravagé la terre d'Égypte. Ils ont fait à ce pays ce que les Bodins ont fait au sens de l'esthétique. Tout ça pour vous dire que les insectes, ça a toujours été une calamité. Regardez en Afrique, la mouche tsetse, elle vous pique, vous dormez. Mais si vous ne travaillez pas à Radio France, vous faites comment? Regardez la vrillette du pain. C'est un coléoptère qui se nourrit de pain, de biscuits, de café, de chocolat, de viande, de poisson. En gros, vous faites des courses, c'est pour elle. Quand elle a tout bouffé, à la fin, elle fait 3 mètres sur 2. Vous la retrouvez à table en train de crier durable. Il y a aussi la punaise de lit. Vous allez vous coucher, elle est là. C'est pire qu'un conjoint. Et parfois, elles sont 12. Vous avez fait votre catéchisme, toujours vécu dans la pureté, échappé au prêtre qui vous disait « Veux-tu voir mon hostie ?» Et le soir, vous êtes 13 dans un pieu, c'est n'importe quoi. Heureusement, tout ça, c'est fini. On est en train d'exterminer les insectes, comme on l'a fait avant avec les animaux marins et les mammifères. Puis, on se détruira nous-mêmes. Et à la fin, dans 200 ans, ne restera de vivant qu'Abdelaziz Bouteflika, qui dira « Je repartirai bien pour un 72e mandat. »
Mais en fait, à quoi s'attendre en vivant dans un monde sans insectes?
Qu'à des belles choses, Nagui. D'abord, genre, sans les insectes, pas de pollinisation, donc plus de fruits et légumes. Tous les midis, on pourra aller chez McDo en disant « c'est pas de ma faute, j'avais pas le choix ». On sera dans l'antithèse de ce qui se passe maintenant. On fait des steaks végétaux, bah là, des gens malaxeront de la blanquette de veau jusqu'à lui donner la forme d'une banane. 2040, les derniers véganes seront morts de faim. Émeric Caron en 2041, parce que grâce à son carnet d'adresses, il aura réussi à détourner une pomme. En fait, les trois quarts de notre alimentation dépendent de la pollinisation. Donc, on ne mangera plus. Et l'été, on aura tous des corps de rêve. En tout cas, de rêve de Karl Lagerfeld quand il fait un défilé. C'est-à-dire qu'on pèsera 29 kilos, dont 28 d'os. Mais l'avantage, c'est qu'on prendra moins de place et que dans le métro, on rentrera à 200 par wagon au lieu de 60, avec les frotteurs en pleurs qui diront « Bon Dieu, je suis écœuré, il n'y a plus rien à frotter ». La vie sans insectes, c'est le rêve. Parce qu'il n'y aura plus d'oiseaux non plus, ils se nourrissent d'insectes. On dormira la fenêtre ouverte sans être réveillé à 7h du mat par une mésange qui piaille. On pourra enfin entendre BFM TV. Hein. Et le pare-brise de la Punto sera nickel. Pas de fientes, pas d'insectes écrasés. Il y a juste en Égypte qui verront des grenouilles tomber s'ils se sont remis à la skunk. Donc j'aimerais m'excuser auprès de la FNSEA, que j'ai parfois accusé de favoriser une culture intensive dopée aux pesticides. Pardon, pardon, c'est le lobby écolo-végano fan de boulgour, très présent à France Inter, Guillaume Meurice, Guillermo Guise, mais aussi des gens moins à gauche comme Nagui, qui m'ont retourné la tête. Oui, FNSEA, vous avez raison, défoncez ce qui reste. Je veux pas balancer, mais au printemps dernier, j'ai aperçu un papillon. Un enfant l'a regardé voler et a dit « c'est beau ». Mais on est en train de faire des poètes. Autant de gens qui, une fois adultes, refuseront de bosser en open space. Non, tu vois, l'entreprise, c'est pas pour moi, j'ai besoin de ma liberté. Et après, la croissance, elle doit se faire toute seule. Vous croyez que Bruno Le Maire, il regarde des papillons? Non, il regarde le ministre des Finances allemand. Ce monsieur qui a le même job que lui, mais avec un stock d'argent. On s'en fout s'il y a plus d'insectes à Fort Boyard à la place des araignées. On enfoncera Francis Lalanne qui est planqué dans la tour sud à l'intérieur d'une amphore. Ce sera aussi effrayant avec sa pilosité hirsute. Vous ne saurez pas si vous y tripotez la barbe ou le pubis. Bref, un monde sans insectes, c'est pour bientôt. Et si contrairement à moi, vous ne voulez pas de ce monde-là, bah bougez-vous.
Merci. La bande originale. Lundi sur France Inter. qu'est-ce qui a été le plus délicat pour vous à tourner ce film Moi, maman, ma mère et moi qui sort aujourd'hui au cinéma? C'est d'abord, est-ce que c'était une ambiance caméra à l'épaule la plus naturelle possible avec
C'était une ambiance où il y a eu peu de budget pour faire ce film. Donc on faisait beaucoup de scènes la même journée, il faisait 59 degrés. Donc
c'était super joli le paysage.
On a tourné en Île-de-France, assez loin pour la maison.
La petite rivière.
Non, la petite rivière, c'est dans l'Erdre, c'est dans un endroit magnifique dans l'Erdre, non loin de Nantes, c'est très beau, c'est un bel endroit. C'est très très beau.
Non, mais c'était un tournage très 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 fort parce que nous on s'aimait. Enfin, moi j'étais très très content de tourner avec Grégory parce que je trouve que c'est.
Vous aviez déjà travaillé ensemble ?
Non, on n'avait jamais travaillé ensemble, mais on se connaissait, on s'était croisés. Et moi j'ai surtout découvert Grégory dans un film qui s'appelle L'air de rien. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est un film magnifique.
Pas cette chance, non.
Ah bah
non,
faut le voir, c'est comme ça. J'ai découvert Grégory dans ce film.
Avec Michel Delpech.
Ah ouais, Michel Delpech,
je suis tellement fan de Michel.
Ah bah faut voir ce film, il est super.
Que vous voyez ce film,
ah ouais,
d'accord.
L'air de rien, il joue son propre rôle. Grégory.
Et c'est Grégory Magne. Grégory Magne. Avec qui je viens de tourner d'ailleurs.
Et c'est vraiment un film magnifique et j'ai découvert Grégory là-dedans. Et c'est un grand acteur. Du coup, j'étais contente de travailler avec lui. Lolita Chama, fille Probo, que j'admire aussi beaucoup, donc c'était joyeux. Et la difficulté, c'était de, bah, par exemple, la scène où je craque sur mes frères et sœurs. On l'a tourné à 1h30 du match, je m'étais levé à 8h, j'étais défoncé de fatigue, quoi. Donc, en fait, c'est des conditions.
Ça marche bien.
Merci. Mais c'est des conditions, en fait, de tournage où c'est pas des films où il y a beaucoup de sous et donc tu fais 2 minutes. T'as 2 minutes utiles. Ce qu'on dit 2 minutes utiles, ça veut dire que c'est
très très
une
drôle.
Scène.
Lolita Chama, j'ai rarement vu aussi déjantée, aussi drôle.
Ouais, elle est super.
Ça lui va bien.
On était très soudés autour du projet de Christophe Lemaine qui a mis 10 ans pour faire ce film, qui a eu peu de budget. Donc il y avait un côté un peu genre pas sauver Willy, mais un côté voilà. On trouve que c'est un grand auteur, que ce qu'il écrit est très beau, très fort. Enfin, moi j'ai adoré ce scénario. Quand j'ai lu, je fais ok, j'adore ce scénario. J'aimais tout le début du film où c'est quand même un homme, on le voit faire une crise d'allergie à sa famille. Donc c'est quand même très drôle, c'est concret, il fait une crise d'allergie à sa famille.
Moi, maman, ma mère et moi, film de Christophe Lemaine qui sort aujourd'hui.
Allez-y, c'est super.
C'est drôle, c'est touchant, tout l'inverse de Daniel Morin.
Ah, ça va mieux, je vous retrouve, Dani. Aujourd'hui, mercredi, c'est le jour de la chronique crimino-judiciaire Faits divers. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une affaire fraîche, une affaire qui a commencé avant-hier à Aubervilliers. Une affaire sensible.
Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Ça fait peur.
Il est tôt ce petit matin de février en banlieue parisienne. Un fourgon blindé fait sa tournée. Le chauffeur dépose ses 2 collègues. Quand ces derniers reviennent, le fourgon n'est plus là. Pas de traces du chauffeur non plus. Le fourgon comptait 3 millions d'euros. Est-ce que le fourgon a été saisi par des malfaiteurs qui ont pris le chauffeur en otage? Est-ce que le chauffeur a fait le con? Est-ce que c'est la fourrière qui a embarqué le fourgon mal garé sans voir que le chauffeur était à l'intérieur? Est-ce que le fourgon était aspiré dans l'espace par des êtres venus d'une autre planète? Le mystère est entier. Le mystère demeure. Un mystère qui ne demeure pas longtemps. C'est clair, ça n'a pas traîné. Dès le lendemain, le chauffeur du fourgon est interpellé. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le plan du voleur? Il avait pourtant dû tout prévoir, à moins qu'il soit un peu con.
Bon bah hier j'ai volé l'argent, maintenant pour me cacher je vais aller dans mon ancienne adresse, personne n'y veut penser. Pour planquer le pognon je vais être malin, je vais pas le laisser traîner sur la table, je vais mettre dans un placard.
Mais effectivement il est un peu con.
C'est pas vrai.
La police va toujours fouiner du côté des anciennes adresses quant à l'argent. Il faut aux policiers environ 4 secondes pour le retrouver, vu qu'une liasse de billets de 50 dépasse de la porte du placard. Mais est-ce que tout l'argent est là? C'est la grande question. Les policiers de Lille commencent le comptage, un comptage qui est encore en cours ce matin. Comment cela se fait-il alors qu'aujourd'hui, il existe des machines pour compter vite et juste?
Qu'est-ce que tu fais, Jean-Paul? Je compte! Mais prends la machine, il y a des millions! Non, j'ai pas confiance, je compte à la main!
Un comptage à la main prend un temps infini. Du coup, ça ralentit l'enquête.
2 185 650, 2 185 600, 2 185 650, 2 185 700, 2 000...
Je parle! Ta gueule, je compte! Merde, je me souviens plus! Je prends la machine! Là, je recommence!
50, 100, 150, des champs.
L'enquête piétine. Piétine un peu, mais on est sur la bonne voie. Tout dépend de Jean-Paul, qui d'ici normalement 5 heures de comptage sera terminé, l'enquête bouclée. Une question demeure cependant. Pourquoi le chauffeur voleur ne s'est-il pas mieux caché?
Ben si je me cachais mieux, moi. À la cave, par exemple. Ah ben non, je peux pas, y a pas la télé à la cave. Et moi, je veux pas louper les victoires de la musique. C'est classique ce soir, c'est France 3. La présentatrice, c'est Lala Kadour. Je l'adore en plus, elle m'a dit qu'il y avait le planiche Lang Lang. C'est binard comme nom, quand même, Lang Lang. C'est pas caché à la cave pour ne pas rater les victoires de la musique classique. Là, on a la confirmation qu'il est vraiment con. Là, il a eu la raison, en revanche, c'est que c'est vrai que c'est bizarre comme nom. Lang Lang. Pour sèche, épiderme irrité, dites stop. Choisissez le gel douche Good Skin aux extraits naturels de Lang Lang. Le Lang Lang est une fleur tropicale au parfum délicat qui donne à la peau un toucher satin incomparable tout en l'hydratant parfaitement pendant 24 heures. Ne choisissez plus entre plaisir et efficacité. Choisissez Good Skin aux extraits de Lang Lang. C'est ça, Lang Lang, ça fait gel douche. Si en plus il sait jouer du piano, c'est génial. Pour en revenir à notre affaire sensible, la moralité pourrait être con et voleur, ça n'empêche pas d'être mélomane. Bon ben voilà, l'affaire est résolue, les amis, je suis tranquille, moi aussi ce soir, pour regarder en toute sérénité les aventures de Leïla et de Lang Lang sur France 3.
Oh, merci Daniel. France Inter, la bande originale,
avec Maggie. Mais pardon, c'est...
Je vous en prie.
C'est vrai que le mec est vraiment allé chez lui.
Non, non, c'est son ancienne adresse.
C'est vrai?
Bah oui. Quand il a pensé s'échapper quand la police est rentrée et il s'est dit et si je passais par la fenêtre. Et devant sa fenêtre, il y avait la police aussi.
C'est pas de bol.
Tellement drôle. Bon, maman, ma mère et moi, le film de Christophe Le Mans, c'est au cinéma aujourd'hui avec Olivia Cotte, Lolita Chama, Grégory Montel, Philippe Rebaud. Et vous venez de tourner une nouvelle série pour M6.
Ah, la joie.
Ah, toi, oui. Toi, mon toi.
Ah là, vraiment, pardon, hein. C'était cool avec toi, hein. Mais là vraiment je me suis vraiment éclatée.
Non, mais là, la vérité éclate.
Non, c'était trois mois de tournage, c'est la première fois de ma vie que je faisais ça, trois mois de tournage.
Vous retrouvez Judith Siboney.
Et voilà, et je retrouve Judith Siboney et on est entouré d'acteurs formidables, enfin tout le monde. Non mais là c'était mon dernier jour hier.
Julien Boisselier.
Julien Boisselier qui est extraordinairement drôle et gentil et tout ça. Maurice Criancourt qui est génial, Benjamin Belcourt qui est génial, Cédric Moreau, enfin tous les acteurs, toutes les actrices, c'était vraiment la joie. C'était un peu magique pendant trois mois là.
C'est quoi le pitch de la série?
Écoutez, c'est sur l'habitat participatif, c'est cette nouvelle mode où en fait...
On partage tout.
Où un groupe, alors attention, où un groupe va voir une mairie en me disant « Est-ce que vous nous filez ce terrain, nous on vous construit un immeuble et vous allez voir, on va défendre que des belles valeurs, la mixité sociale, les énergies renouvelables, tout ça. Un monde, un peu une sorte de petite utopie de Thomas More, quoi. Tout d'un coup c'est une petite île utopique où ça serait super, où on fait tous attention les uns aux autres. » Voilà. Et ça existe, en fait.
Ouais.
Et ça,
beaucoup, en Allemagne.
Beaucoup en Allemagne. Beaucoup en Allemagne, beaucoup en Norvège, bon, évidemment, tout ça. Mais en
J'aime
France.
Bien. Évidemment.
Non, mais pays, genre, ils sont dépassés, les mecs sont un peu en avance, voilà, c'est ça. Et en France, dans certaines régions de France, ils font ça. Mais c'est des petits îlots. C'est-à-dire que, voilà, ça parle de ça.
Alors ça c'est le moment de grâce et de bonheur. Malheureusement vous avez tourné également sous la direction d'Éric Lavenne et on sait quelle souffrance c'est de travailler avec...
Non, souffrance non, mais c'était...
C'est un obsédé quand même, c'est un alcoolique obsédé, il doit de l'argent à tout le monde. Enfin,
je ne parlerai pas sans la présence de mon avocat.
Non, non, c'est un copain.
Parce que moi je suis perdu là, je me suis dit j'avais jamais entendu balancer comme ça.
La vanne n'est drôle que si c'est un accident, voilà, sinon ça... Ça ne marche pas.
C'était super aussi, mais c'était moins long.
C'était moins long.
Oui, c'est ce que m'a dit sa femme aussi.
Chamboule tout avec Alexandra Lamy et José Garcia.
Oui.
Quant à vous, Grégory, vous serez à l'affiche de l'inspiratrice de Grégory Mann, dont vous parliez tout à l'heure, aux côtés d'Emmanuel De Vos. Le résumé du film.
C'est l'histoire d'un chauffeur de maître qui a plus de points sur son permis, qui est pas très en forme, qui vient de divorcer, qui a une fille, il est célibataire.
Il y a pas une histoire de parfumeur.
Et ben justement, et voilà, et qui récupère cette dame, donc Emmanuel De Vos, qui est une ancienne née, créatrice de parfum, qui a eu une renommée internationale. Ils vont pas très bien tous les deux. Et c'est l'histoire de ces deux personnages qui vont se réparer sur les routes de France, voilà.
Et puis M6, décidément, vous accapare l'une comme l'autre, puisque vous avez tourné une série qui s'appelle Remix.
Ouais, qui va s'appeler Remix. Il va s'appeler en fait le Grand Bazar désormais.
Ah, ça change.
Voilà,
de nom.
Voilà, ça change de nom. Voilà, voilà, écrit et réalisé par Baya Kasmi. Voilà, Michel Leclerc a participé aussi à ça. Ça va être, c'est une, voilà. Je sais pas dire autant de bien du genre, même des gens, même si je les adore. Mais voilà, c'est avec Nelia Razoun qui est extraordinaire.
Et 10%, oui. Ça se poursuit, ça continue.
Oui.
Vous êtes êtes sûr d'une saison à
venir. Oui, une saison 4, oui, c'est voilà. C'est Vianney Le Basque et Victor qui ont récupéré l'écriture de cette série, puisque Fanny Herrero a quitté l'aventure, elle était fatiguée.
La maman de la série.
Voilà, c'était prévu. Et donc, on rattaque avec deux nouveaux papas, avec probablement des réalisateurs.
Mais bien Vianney Le Basque, hein, il avait réalisé.
Ah ouais, notamment Les Grands, c'était une série justement un peu culte aussi.
Et son film aussi était super, il
est paraissant dans l'affiche, voilà, sur l'histoire de basketteur.
Ouais, c'était bien.
C'est assez marrant.
Et de quoi avez-vous envie, Olivia Cotte, par exemple? Vous avez envie de tourner un film de genre particulier ou avec un réalisateur en particulier ou...
Ah, là, c'est vrai que je rêve un peu déjà d'arriver à finir d'écrire et de faire ce que j'écris avec des gens avec qui j'écris en ce moment, que ça marche, que ça se vende. Ça serait mon plus grand plaisir. Et après, oui, que des
réaliser.
Scénaristes. Ouais, j'aimerais beaucoup. Et Grégory sinon, aussi, si c'est des propositions extérieures, des films malins, intelligents, drôles, voilà.
Grégory, réalisé aussi, ça vous...
Ça m'a été proposé là récemment pour un court-métrage que je suis en train de réaliser justement, voilà, que je vais réaliser dans un mois. Je vais réaliser un court-métrage pour un projet qui s'appelle Talent Canada Ami. Et donc, je vais réaliser ce film avec des jeunes acteurs. Voilà, ça sera mon premier, ce sera un passage derrière la caméra. J'ai écrit également le scénario avec ma compagne. Donc ça, c'est très content. Je suis très content.
Et puis, l'actuel ou
l'actuel? Oui, non, l'actuel. C'est celle pour qui j'ai écrit mon spectacle.
Voilà. Avec Monica Bellucci en guest, peut-être. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien évidemment, et désolé pour le réalisateur, les producteurs et tous ceux qui ont travaillé pour moi, maman, ma mère et moi, et qui se sont rendus compte que suite aux propos de hooligan de l'OM, de Grégory Montel, ils venaient de perdre tout leur potentiel public d'Île-de-France. Bassin de population, plus
j'en
de 12 millions. Voilà, je dis ça. Désolé pour la morale, l'éducation, les valeurs, quand Leïla imagine que deux filles de 10 ans peuvent faire ensemble, ce qu'elle imagine, c'est fumer, fuguer, se marier. Et encore, elle n'a pas parlé d'alcool, de poppers et de cagoule en cuir. Je commence à te cerner, Leïla, et c'est pas rassurant. J'ai peur pour Monsieur Lang Lang.
C'est excitant, je dois reconnaître.
Désolé pour le réalisateur, les producteurs et tous ceux qui ont bossé pour moi, maman, ma mère et moi, qui ont appris ce matin que tous les gérants de salles d'Île-de-France dans lesquels ils devaient être diffusés viennent d'annuler les projections.
Pas du tout. Ça sort aujourd'hui au cinéma. Merci beaucoup, Olivia Cotte, d'être venue.
Merci à vous, Grégory Montel.
Bravo demain. Carole Rocher et Thomas Mijol seront nos invités. Ce soir, évidemment, les victoires de la musique classique sur France 3, présentées par Leïla Kaddour-Boudis.
Avec Monsieur Lang Lang.
Tout de suite et très vite, les carnets.
Je voulais vous faire une surprise, un petit cadeau pour conclure votre magnifique émission, mais je pourrais pas.
Pourquoi ?
Je voulais vous chanter Papa, Maman, la bonne et moi.
Non, mais demain.
Ah bon, tant pis.
Ouais, moi, je voulais passer le bonjour à Philippe Bertrand aussi et que je le remercie. Et puis, je voulais dire à Philippe Bertrand que le top il ouvre à la fin de l'année et c'est un peu grâce à vous.
Super, tant mieux. Merci Grégory. À bientôt, les
bonne
amis.
Émission.
Ciao.